Bonjour et bienvenue dans notre podcast des chèvres dans le Larzac, le podcast où l'on parle reconversion professionnelle au féminin. Chaque mois, nous donnons le micro à des femmes qui ne sont pas parties élever des chèvres dans le Larzac, mais qui ont donné un coup de volant sur une route bien tracée. Des femmes qui ont osé changer de métier, de voie, de vie. Alors, quel a été leur déclic? Comment ont-elles sauté le pas et trouvé leur Larzac? Elles nous racontent tout juste ici.
Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver plus de 70 témoignages de reconversion professionnelle sur notre blog, deschèvresdanslelarzac.com ou sur notre compte Instagram. Merci à notre partenaire le magazine Rebondir et merci à vous de nous écouter. Si ce podcast vous plaît, alors likez, commentez, partagez sur votre plateforme d'écoute pour que notre chouette aventure puisse continuer.
Traditionnel petit tour de table, je suis Caroline Vivant, ex-journaliste reconvertie dans la communication et aujourd'hui à la tête d'un site sur la consommation responsable, lecabas.fr.
Et moi je suis Florence Martin-Pelmier, ex-journaliste reconvertie dans les relations médias, reconvertie dans la création de contenu éditorial en freelance. Dans le studio avec nous, Christelle Simon du magazine Rebondir, que nous retrouverons comme à chaque fois en fin d'émission pour sa chronique « Trouve ton Larzac ». Et aujourd'hui elle nous parlera du CEP, alias le Conseil en évolution professionnelle. Et donc notre invitée Muriel Citruc, qui est co-créatrice de la marque Girl Power, pourquoi princesse?
Bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors nous avions très envie de t'inviter ici car en tant que femme et maman de jeunes enfants, Florence et moi, nous sommes tout simplement fans de Pourquoi Princesse, une marque engagée qui cherche à briser les stéréotypes de genre dès la plus tendre enfance et qui dit à nos petites filles, aussi à nos garçons, mais surtout à nos petites filles, qu'elles peuvent être et devenir ce qu'elles veulent dans la vie. Alors bref Muriel, tu as deux enfants, tu as fondé la marque de mode et de lifestyle Pourquoi Princesse avec une acolyte dont tu nous parleras. Nous allons commencer par la question que nous posons à toutes nos invitées. Peux-tu nous pitcher Pourquoi Princesse en 30 secondes top chrono?
Avec plaisir. Alors Pourquoi Princesse, c'est d'abord une entreprise à mission, à impact. C'est la première marque pour enfants dont la mission est de faire évoluer l'égalité filles-garçons. Donc pour ça, on crée des vêtements messagers, des contenus inspirants et permettant la prise de confiance.
Super. Est-ce que tu peux juste nous citer quelques exemples de vêtements, par exemple, pour qu'on ait bien l'image en tête?
Alors, on crée plusieurs types de vêtements. Des vêtements dans le vestiaire classique avec des messages décalés, qui bousculent les clichés, comme par exemple des t-shirts avec « Je suis la princesse qui terrasse le dragon » ou « Pourquoi princesse quand je peux être pilote ou astronaute ?» Et on a des vêtements plus iconiques, comme la combinaison de futur.e pilote, c'est-à-dire futur conjugué aussi, enfin conjugué, accordé au féminin, et des vêtements aussi un peu emblématiques comme les dernières robes qu'on a sorties avec des imprimés fusées ou dinosaures, et puis on va en voir d'autres qui vont arriver ensuite, qui sont jamais vus dans les rayons filles.
C'est vrai, je confirme, Caroline et moi on a deux filles chacune et on voit bien. Donc si on revient quelques années en arrière, donc après tes études de droit, tu as travaillé plus de 10 ans comme juriste en droit d'auteur dans l'univers du jeu vidéo, avant de monter ta première boîte. Donc tu en monteras 3 en tout avec des allers-retours dans le salariat. Qu'est-ce qui te titille dans l'entrepreneuriat?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose qui me pousse que je ne peux pas forcément identifier. Donc, une volonté intrinsèque. Il y a la liberté. Il y a l'envie de créer, l'envie d'avoir un impact sur la société. L'envie d'aller toujours plus loin, de me poser des challenges.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de quelles entreprises il s'agissait, ce qu'elles proposaient?
Alors, c'était toujours autour d'idées créatives quand même. Donc, la première, c'était de proposer des produits donc de mode, donc, type accessoires, sacs, bijoux ou déco, de jeunes créateurs ou créatrices et de leur permettre d'avoir une exposition plus internationale. Donc, ça, c'était ma première entreprise. Donc, je sélectionnais des créateurs, des créatrices qui faisaient des collections spécifiques et j'essayais d'en faire une collection que j'allais porter un peu plus loin que ce qu'elle pouvait. Et puis ensuite, la deuxième entreprise, ça s'appelait Sweet Case et c'était une entreprise dédiée à la valise de maternité, aux affaires de naissance du bébé. Donc, on avait le kit complet du petit body essentiel à la gigoteuse et la valise en elle-même.
Donc, ce sont deux très beaux projets, mais qui se sont arrêtés. Avec le recul, qu'est-ce qui manquait, tu penses, et qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté?
Alors, ce qui manquait déjà, je pense que j'étais seule. Et monter seule une boîte, c'est quand même pas facile, parce qu'il faut quand même lever des fonds, il faut trouver de l'argent, il faut mettre une énergie très 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 grande. Et seule, j'ai trouvé ça, en tout cas, pour ma part, compliqué. C'était aussi, il fallait faire tout de A à Z. Donc et puis c'était une expérience que j'avais pas, c'était nouveau pour moi. Donc je pense que ça a pris un peu plus de temps que ce que j'aurais souhaité. Ça m'a appris énormément. Ça m'a appris les do's, les don'ts, quoi. Donc maintenant, il y a des choses que je referai pas, il y a des choses que je ferai autrement, etc. C'est un peu comme si j'avais fait un MBA un peu cher, mais assez complet.
Qui t'a appris donc notamment que tu voulais pas être plus être seule. Et là, c'est le cas pour ce nouveau projet Pourquoi Princesse. Vous êtes deux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton associé, sur la façon dont vous vous êtes rencontrés?
Alors, mon associée est américaine, elle s'appelle Laura Druett, c'est elle qui a eu l'idée de départ du projet. Et en fait, elle connaissait quelqu'un que je connaissais aussi et qui nous a mis en commun, qui nous a mis en contact au moment où elle cherchait pas mal d'infos sur le secteur de l'enfant, de la mode enfantine. Elle essayait de comprendre un peu comment c'était en France. Et c'était au tout début de son projet. Et donc, moi, au début, je suis simplement intervenue pour. Je connaissais bien la mode enfantine, donc pour lui. Parler un peu du marché, puis elle me parlait de son projet, plus ça me touchait, plus je comprenais certaines choses. Et quand elle m'a dit, écoute, moi je cherche vraiment une cofondatrice pour lancer ce projet, j'ai dit, écoute, ça peut être moi.
Et justement, qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet? Qu'est-ce qui t'a parlé?
Alors, ça a touché des valeurs profondes chez moi, donc le féminisme, l'égalité, et c'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur, mais je n'ai jamais réfléchi à comment en faire, comment avoir un impact sur ce thème de l'égalité et du féminisme. Et donc quand j'ai compris le projet, quand j'ai compris effectivement les inégalités, que ça se traduisait que les stéréotypes avaient un impact très très fort dès le plus jeune âge, et qu'on pouvait changer les choses, et que c'était ce que proposait de faire Laura. Ça m'a personnellement beaucoup touchée.
Et c'est un message, je trouve, qui donc manquait dans le milieu de la mode, parce qu'on voit de plus en plus de livres, en tout cas, sur les portraits de femmes, ou pas mal de magazines qui, enfin, pour les petites filles et pour les petits garçons aussi d'ailleurs, mais pour essayer de dépasser les stéréotypes de toi, tu seras pompier, et puis toi, tu seras. Princesse, coiffeuse, maîtresse, enfin, j'en sais rien. Mais alors, le milieu de la mode, c'est vrai que c'était plus étranger à tout ça, quand même.
Oui, alors après, en fait, c'est vrai que les livres, les magazines, les jouets aussi, ça commence à changer. C'est une timeline de 3 ans. C'est-à-dire que nous, on a commencé à travailler sur le projet à peu près à ce moment-là où... le premier livre aux États-Unis, Histoire du soir pour petites filles rebelles, qui avait été un gros carton, venait de sortir, quoi, à peu près. Donc c'est vrai que c'était déjà une tendance qui commençait. Et puis dans la mode, donc aux États-Unis, ça a commencé déjà avant que nous on se lance. Des marques ont commencé justement à. Alors il ne s'agit pas forcément de dégenrer, mais il s'agit surtout d'ouvrir les messages sur tous les vêtements. Et donc ça. En France, en tout cas dans notre environnement, ça n'avait pas encore touché vraiment la mode.
Oui, d'ailleurs, il suffit quand même d'aller dans un magasin de vêtements pour enfants pour se rendre compte qu'on est quand même toujours sur les fleurs roses pour les filles et les dinosaures pour les garçons. Après, c'est vrai qu'on peut se demander comment réussir à élargir ça et à toucher une cible qui ne soit pas forcément justement des parents qui ont déjà cette envie et qui ont déjà, des messages pour dire à leurs enfants « tu peux faire ce que tu veux » et qui vont peut-être acheter « suite » et réussir à toucher un maximum de personnes. Je ne sais pas si c'est des problématiques auxquelles vous réfléchissez.
C'est un vrai sujet, sachant que même si aujourd'hui, pour toute la population de parents qui ont envie d'avancer sur l'égalité, aujourd'hui, ils n'ont justement pas encore les vêtements, ou alors ils vont dans. On a beaucoup de clients qui nous disent « moi, je vais dans le rayon garçon pour ma fille ». Mais c'est justement là que ça ne va pas. C'est que quelque part... Quel message on donne à sa petite fille quand on la dit, écoute, ça te plaît pas ici, viens, on va voir chez les garçons. Donc on lui dit qu'elle est pas vraiment une fille, ou on lui dit que ce qu'elle aime, c'est pour les garçons. Enfin, c'est bizarre. Donc quoi qu'il arrive, déjà cette population-là, on a besoin d'outils et de produits qui leur ressemblent. Et nous, on a une façon aussi de montrer le problème de manière assez simple, qui fait que ça permet aussi aux gens qui se posaient pas encore la question de ça plante une petite graine et se dire, non mais c'est vrai ça, les dinosaures, à quel moment c'est devenu un truc de garçon? À quel moment l'aventure serait forcément liée aux garçons? La témérité, le courage, enfin voilà, et donc ça on déroule après le sujet, hein, à partir de...
Et c'est vrai que même quand on est déjà un peu sensible au sujet, je suis d'accord, il manque vraiment d'outils, et puis c'est compliqué parce que les enfants, ils intègrent ça même en dehors de la maison, enfin dans la cour de récré. Enfin moi, je le vois avec mes filles, c'est incroyable. À 2 ans, on dit le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, se bagarrer c'est pour les garçons, jouer. Enfin, je trouve que c'est vraiment très ancré et très tôt. Toi, c'était déjà un message que tu avais envie de porter ou enfin est-ce que tu te sentais déjà féministe avant? Est-ce que tu l'avais conscientisé?
Alors, j'ai toujours été très sensible à l'injustice de manière générale. Donc, pour moi, c'est une forme d'injustice. Donc, du coup, j'étais très sensible et voilà. J'ai 4 sœurs. J'ai été élevée beaucoup par ma grand-mère, qui était une femme très forte. Donc, j'ai toujours été très intrinsèquement touchée, mais j'avais pas conscientisé en tout cas les inégalités telles qu'elles étaient vraiment. J'avais pas vraiment conscience de ça en fait. J'avais pas du tout conscience que oui, les messages qu'on donne à nos enfants sur leurs vêtements ont un impact sur la façon dont ils se projettent dans l'avenir. Absolument pas conscience de ça. Mais le fait que ma fille, mes filles, par exemple mon aînée qui est hyper fan de Star Wars, et à chaque fois que j'ai voulu lui acheter un truc Star Wars, j'ai dû aller dans le rayon garçon, et je trouve ça complètement dingue en fait. Pareil pour la petite qui est fan de stylisme, elle fait ses propres vêtements et en même temps elle adore la robotique et elle a demandé un circuit de voiture pour Noël et quand je suis allée en acheter un, on me dit et donc il a quel âge? En fait elle a quel âge parce que c'est une fille et ça m'a complètement ouvert les yeux quoi. Donc ça a été en fait concomitant au démarrage du projet, cette prise de conscience et cette côté concret en fait.
Et cet engagement d'ailleurs, il est vraiment très ancré dans Pourquoi Princesse, parce qu'au-delà des vêtements qui déjà portent tous les messages dont tu parles, vous avez aussi lancé des lives, des interviews de femmes sapeurs-pompiers, pilotes, voilà, ou championnes de skate. Là, très récemment, vous avez aussi remontré toutes les concurrentes femmes du Vendée Globe. Est-ce que tu peux nous citer d'autres actions que vous réalisez pour essayer d'élargir l'horizon des filles au-delà des vêtements?
Alors, on essaye justement, en effet, de produire des contenus, des outils. Alors déjà, nos réseaux sociaux sont vraiment un vrai porte-voix, on va dire, pour parler de l'égalité en général. Et on parle aussi beaucoup de comment est-ce que les garçons, les hommes sont impliqués dans ce travail vers l'égalité sur nos réseaux sociaux et les contenus qu'on produit. Et quand je dis contenu, on a fait par exemple un guide qu'on peut télécharger en allant sur notre site internet ou sur le compte Instagram, un guide des tous les meilleurs compliments qu'on peut donner à une fille en dehors, qui n'a rien à voir avec la beauté ou la prudence, quoi, en gros. Et c'est vrai que même ça, c'est le genre de choses auxquelles j'aurais jamais pensé avant de commencer à travailler sur le projet. Donc on essaie de produire des contenus, on va continuer les mini-talks d'une manière ou d'une autre. On travaille avec d'autres marques, d'autres acteurs, d'autres médias pour voir comment ce message peut passer. Donc c'est surtout à travers la production de contenus, qu'ils soient sur support physique ou en médias.
Et est-ce que vous avez des retours de parents, justement, soit qui ont eu une certaine prise de conscience ou que ça permet d'accompagner avec leurs enfants? Vous avez ce genre d'échange?
Ah ouais, vraiment. Alors moi, pour voir vraiment la différence, par exemple, par rapport à mon ancienne entreprise, quand j'ai lancé les valises de maternité, alors c'était toujours des commentaires, c'est super beau, j'adore, enfin voilà, c'était... j'avais des échanges, mais là, j'ai des vrais échanges avec... donc déjà en message sur les réseaux sociaux, en commentaire sur les réseaux sociaux, où on reçoit des mails aussi, ou quand on a lancé la campagne de Ulule sur nos robes, mais on peut voir, hein, vous pouvez aller voir les commentaires sur la page Ulule. Enfin, merci, et hop, une histoire. La dernière fois où il s'est passé ci, on a dit ça à ma fille ou à mon garçon. Donc on a sans arrêt des messages, et ça nous alimente énormément. C'est pour ça que tout ce qu'on essaie de faire, on essaie de le faire en co-création. Parce que nous-mêmes, on est en apprentissage aussi sur les besoins, sur qu'est-ce qui parle vraiment aux parents, aux enfants. On a cette façon assez douce de communiquer, c'est-à-dire que on aimerait que cette prise de conscience, elle se fasse un peu de la même manière qu'elle s'est faite pour nous, pas forcément dans la violence parce que c'est assez vieux, ça peut être assez violent hein, le sexisme parfois. Et donc là, comme on veut créer ces déclics et cette prise de conscience, on essaie de vraiment l'accompagner. Et c'est pour ça que les échanges justement ou le partage d'expériences des parents, elle est essentielle dans notre démarche.
Et justement, en parlant des parents et des adultes, moi j'aimerais bien que tu nous donnes, que tu partages quelques conseils pour les gens qui nous écoutent, qui sont donc beaucoup des femmes, qui ont des projets ou des envies de reconversion, de création d'entreprise, en tout cas de changer des choses dans leur vie, parce que c'est toutes les femmes avec qui nous on échange quotidiennement, et il y en a quand même beaucoup qui ont des problèmes de confiance en elles. Sur votre site d'ailleurs, vous mettez quand même qu'il y a, je crois que c'est à partir de 9 ans que la confiance des petites filles commence à décroître, donc je trouve ça effrayant.
C'est incroyable.
Donc il y a le guide des compliments pour les petites filles, mais pour les femmes là, qui nous écoutent, quels compliments on peut leur faire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager justement à mener leur projet?
Alors je pense que c'est un chemin, parce que comme on l'a dit, il y a une construction qui ne vient pas que de nous, que de notre intérieur, on va dire. Et des fois, on entend des discours qui sont censés être motivants, où on dit « oui, maintenant, ça y est, il faut que les femmes, elles arrêtent de s'auto-flageller, de... » Mais c'est pas facile parce qu'en fait, c'est pas de la faute des femmes. C'est la façon dont on a grandi, la façon dont la société est construite. C'est tout un écosystème complet qui fait qu'on se retrouve dans cette insécurité, de ce doute, syndrome de l'imposteur et toutes ces choses-là. Et donc, je pense qu'il y a aller voir les autres, aller voir les exemples, celles qui ont avancé, suivent leur chemin. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut prendre là-dedans. Se dire, moi je fais énormément de méditation. Honnêtement, ça m'a énormément aidée parce que ça permet d'avoir du recul justement par rapport à un environnement et les pensées un peu limitantes qu'on a en récurrence hein, depuis l'enfance parfois. Se dire que la vérité c'est que tout est possible, enfin la vérité c'est qu'on peut faire les choses et que le reste ce sont des pensées limitantes.
Et est-ce que tu as eu des retours aussi négatifs sur ta boîte, parce que parfois pour certaines personnes rien que le mot féminisme c'est un gros mot, est-ce qu'il y a des gens qui ne t'ont pas pris au sérieux ou qui ont été un peu gênés, que ça bouleverse un peu les codes qu'ils connaissaient?
Alors oui, alors le mot féministe en France, c'est sûr que c'est un sujet, hein, mais en vérité, le féminisme, c'est l'égalité, donc voilà, ça c'est vrai que nous, on l'utilise sans aucun scrupule. Des remarques sur le côté, c'est plutôt le côté entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au démarrage d'une entreprise, nous, on a une vision assez claire et assez business, on est toutes les deux assez business. Et on se rend compte que dans notre démarche d'entrepreneur, et donc en cherchant des fonds, en travaillant sérieusement, hein, on a quand même toujours un peu ce ressenti que oui, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment un business à ambition? Et nous, on a en plus des grandes ambitions, donc on sent ce décalage parfois entre on veut monter un business avec beaucoup d'ambition et qui va avoir un vrai impact sur le monde, et le retour parfois dans l'univers justement entrepreneurial. Mais ça, j'avais aussi ça avec mon autre business. C'est peut-être quand on est une femme entrepreneur, ce à quoi on est
confrontée. Plus compliqué.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Tu penses que quand même que c'est parce que vous êtes deux femmes que éventuellement l'ambition de votre projet peut faire douter, ou son business model?
Je pense qu'il y a encore ce genre de réticence dans le monde entrepreneurial. Et c'est pour ça qu'il y a des initiatives géniales comme Sista, qui finance, qui se sont groupées pour vraiment financer des projets féminins de haut niveau. C'est important de sortir de c'est des clichés, en fait.
Et sur la création d'entreprise, justement, tu parlais tout à l'heure des do's et des don'ts que tu avais appris en créant tes autres boîtes. Est-ce que tu peux nous en partager un peu?
Alors déjà, moi, mon premier don't, c'est refaire une boîte seule. Donc ça, c'était une certitude. C'est aussi aller chercher rapidement, se mettre rapidement dans un écosystème, justement, permettant des financements. S'entourer le plus rapidement possible aussi de forces opérationnelles. Nous, par exemple, la première chose qu'on a fait, alors avec peu de moyens, mais on l'a fait quand même, on a intégré une DA géniale avec qui travaille avec nous, Estelle Rigaud, qui est vraiment super et qui, dès le début, fait partie des forces importante de l'entreprise. Et ça, des fois on se dit non, mais ça on peut pas. Ben, embarquer un maximum de gens qui vont essayer de vraiment. Parce qu'il faut aller vite quand même, malgré tout. C'est lent, de toute façon, le décollage d'une boîte. Sauf à avoir vraiment le bon timing, le bon produit et surtout avoir un produit innovant et tech. En ce moment, c'est un peu l'axe qui permet d'avoir des financements. Mais sinon, il faut aller vite. Donc, il faut aller vite. Et pour ça, il faut la force humaine, quoi.
Et pour être un peu concret, justement, en termes de financement, vous avez fait comment ?
Alors, aujourd'hui, on a financé avec des fonds propres. On commence à avoir aussi un financement issu des ventes et de la monétisation de l'entreprise. On est sur des dossiers de financement public et on va commencer à avoir d'autres options là cette année.
Alors si on devait tirer un bilan de ta vie aujourd'hui par rapport à ta vie d'avant, qu'est-ce que tu dirais ?
Par rapport à ma vie d'avant en tant que salarié, par exemple ?
Oui, plutôt par rapport à ta vie de salarié.
Oui, par rapport à ta vie de salarié, oui.
Alors, il y a des plus et des moins. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même par rapport à quand j'étais salariée, parce qu'il y avait comme une sorte de limite dans le salariat, dans les postes que j'occupais. Et puis, parfois, je me dis que c'est effectivement plus confort d'avoir un week-end qui ressemble à un vrai week-end, d'avoir des soirées où on peut couper, mais bon, ça dépend aussi des postes. Mais je me sens mieux, on va dire, je me sens plus à ma place aujourd'hui dans mon rôle d'entrepreneur à mission.
Je crois que tu es prête pour notre questionnaire spécial bergerie alors. Donc en une phrase, as-tu trouvé ton Larzac ?
Oui, j'ai trouvé mon Larzac au plus pro. Je dirais que c'est au plus profond de moi que je l'ai trouvé.
Très bien. C'est un peu mystérieux, mais on prend.
Non, mais c'est très. Je pense que si on est OK avec soi-même, après, on peut être un peu n'importe où et avoir un peu toutes sortes d'activités. Mais voilà.
Qu'est-ce qui te rend chèvre dans ta vie d'aujourd'hui ?
Le temps. J'ai l'impression de jamais avoir assez de temps.
Et est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, l'herbe est vraiment plus verte que dans ta vie d'avant ?
Ouais, je pense qu'elle est quand même plus verte que dans ma vie d'avant.
Merci. On va passer à la chronique de Christelle Simon. Trouve ton Larzac. Donc Christelle, aujourd'hui, tu vas nous parler
du conseil en évolution professionnelle.
Oui. Alors le conseil en évolution professionnelle, c'est un service d'accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé pour tous ceux qui veulent faire le point sur leur avenir professionnel, parler de leurs envies, être écoutés, conseillés et guidés tout au long de leur projet. Il a été créé l'année dernière par l'agence France Compétences, qui a elle-même été créée par l'État dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et oui, il y a une loi. Avec un conseiller, vous construisez votre projet, votre avenir, de A à Z, que ce soit pour faire un point sur votre carrière, pour évoluer dans votre entreprise ou créer votre boîte. Vous pouvez vouloir juste changer de métier, de secteur ou d'entreprise, vous former ou bien faire reconnaître vos compétences. Avec le CEP, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui correspond le mieux à votre projet et en adéquation avec le marché du travail, d'un référent qui intervient à votre demande auprès des interlocuteurs pertinents pour mettre en place votre plan d'action. C'est un accompagnement au montage aussi de votre dossier financier si vous en avez besoin. Pour résumer, le CEP, c'est l'appui d'un professionnel pour vous guider et co-construire votre évolution professionnelle. Voilà, je trouve que c'est super de proposer ce service et qu'il serait vraiment dommage de s'en priver puisqu'il est gratuit. Alors, pour prendre rendez-vous avec un conseiller, il suffit de vous connecter sur le site info-cep.fr.
Merci Christelle pour ce bon plan qui devrait intéresser plus d'un auditeur ou d'une auditrice. Merci Muriel de nous avoir partagé ton histoire, celle de la marque. Rendez-vous bien sûr pour en savoir plus sur le site internet de Pourquoi Princesse et sur votre compte Instagram qui est effectivement une petite mine d'or. Et puis merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici.
Donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast et en attendant, nous sommes toujours ravis de vous retrouver et de discuter avec vous sur notre Instagram des Chèvres dans le Larzac. À bientôt.
Au revoir. Merci.
Au revoir.